Alors, je m'appelle Dominique Sens et je suis responsable régional Nord-Pas-de-Calais pour les cheminots CGT.
Je vous contacte parce que pour deux choses. La première, c'est un communiqué de presse que vous avez publié il y a un mois, fin avril, qui parlait d'une volonté du conseil régional de mise en concurrence des TER. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus?
Oui, bien sûr. Et dans le communiqué de presse, je parlais de dogmatisme et de démagogie. Parce que bah ici en France, on a très bien vu à quoi ça a conduit toutes les ouvertures à la concurrence dans les autres grands services publics, comme la Poste ou EDF, GDF. Ça n'a rien amené de bon ni pour les usagers en termes de coûts, de tarifs, ni pour les salariés de ces entreprises-là en termes de conditions de travail notamment. Dogmatisme aussi parce qu'on voit ailleurs en Europe ce qu'ont donné les ouvertures à la concurrence. Alors dans le ferroviaire, on a tous en tête ce qui s'est passé en Grande-Bretagne et le film de Ken Loach, The Navigators. Et puis Xavier Bertrand, président de la région, évoque ce qui se passe en Allemagne. Et nous, syndicalistes CGT, on est en relation étroite avec les autres syndicats européens, à travers la Confédération européenne des syndicats et ETF, sa branche transport. Et nos camarades allemands témoignent de ce qui s'est passé au moment de la libéralisation, donc de la mise en concurrence de la DB, la SNCF allemande, en termes de suppression d'emplois, de dégradation des conditions de travail des cheminots, mais aussi d'impact sur l'offre ferroviaire et l'appréciation des usagers allemands. Et puis enfin, dans le communiqué de presse, j'ai parlé de démagogie aussi, parce que les cheminots faisaient et feront encore malheureusement les choux gras de certains médias pour les dénigrer, alors que ils font des efforts que beaucoup de salariés n'accepteraient pas en termes de productivité. Par exemple, ça fait 5 ans qu'on perd 2000 emplois au niveau national par an. Et ça fait 5 ans qu'on n'a pas eu une augmentation générale de salaire. Alors ça, si ça, c'est pas de la productivité, je n'y connais pas.
Dans votre communiqué, vous parlez donc de libéralisation, de privatisation. C'est un peu ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que jusque-là, le gouvernement vendrait un peu ce modèle comme étant ce qu'il y a de mieux. Or, comme vous le rappeliez, il y a des exemples à l'étranger qui prouvent concrètement que la privatisation n'amène rien de bon, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça. À l'étranger comme en France, les libéralisations, pour employer ce terme qui est pas... En fait, ça ne libère que les profits des nouveaux actionnaires. Et la différence d'une société par action... Et d'une entreprise publique, c'est que les bénéfices y arrivent plutôt aux actionnaires qu'aux investissements et au retour sur investissement. Il y a eu la loi réformant le système ferroviaire français qui a abouti en 2018 et qui a provoqué la grève des cheminots au printemps 2018. Une loi qui était bâtie sur des mensonges et qui n'a rien réglé. Qui n'a rien réglé, notamment au niveau de la dette du système ferroviaire, qui continue de peser fortement, notamment de perdre les intérêts payés aux banques pour rembourser cette dette, et puis qui affaiblit tous les jours, tous les mois, qui continue d'affaiblir le service public, puisqu'on continue de supprimer des emplois et que les cheminots ont de plus en plus de difficultés à assumer leur mission de service public. L'usager s'en ressent au quotidien, dans des trains bondés, dans des trains qui sont plus à l'heure, dans des trains qui ne répondent plus à leurs attentes. Et puis, nous craignons demain un effet délétère de cette réforme française du système ferroviaire qui sera l'abandon des lignes d'aménagement du territoire. Alors, on en a sur la région, l'étoile ferroviaire de Saint-Paul-sur-Ternoise, et puis par exemple... Dans l'Ascensé, dans le territoire de l'Ascensé, la voie unique qui relie Douai à Cambrai, qui a un avenir qui est loin d'être garanti, au-delà des promesses des politiques qui nous dirigent.
Donc concrètement, quand on parle de mise en concurrence des TER, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'avec la privatisation, il y aurait comme plusieurs entreprises qui géreraient des TER qui s'appelleraient peut-être plus comme ça. Donc, qui serait en concurrence. Et donc, vous venez de l'évoquer, il y aurait moins de trains, moins de lignes, plus de monde dans les trains, peut-être même des billets plus chers. Comment ça se mettrait en œuvre concrètement? Comment eux, ils veulent le mettre en œuvre, ça?
Mais là, dans l'état actuel de la loi, l'autorité organisatrice de transport pour le TER, ça reste le conseil régional. Le conseil régional a rendu public, lors d'une conférence de presse au mois d'avril, je crois, et puis le conseil régional a rendu public les lots de lignes ferroviaires qu'il compte soumettre à la concurrence. Mmh. Et la SNCF, le groupe public ferroviaire français, pourra se positionner sur cette concurrence et capter des marchés, pour parler comme les capitalistes, dans ce langage de libéralisation. Mais d'autres entreprises comme Transdev ou l'ADB, les chemins de fer allemands, ou d'autres, pourront aussi se positionner. Et après, c'est le donneur d'ordre qui choisira quelle entreprise captera le marché dans les lois de la mise en concurrence, avec le respect des lois de la mise en concurrence. Alors, ça serait faux de prétendre que l'usager, le voyageur, le client, qu'importe comment on l'appelle, pourrait se positionner et choisir sa compagnie ferroviaire. Parce qu'une fois que le conseil régional aura, lui, choisi la compagnie ferroviaire qui exploitera les trains sur telle ou telle ligne, eh bien, il ne leur changera plus pendant la durée de la concession. Et l'usager sera obligé de prendre ce train-là suivant sa destination. Donc, c'est un peu mentir aussi aux usagers. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on était rassemblés devant le conseil régional pour dire on en a marre de se faire balader. Les directions SNCF nous mentent et disent c'est le conseil régional qui nous dit de baisser les coûts. Et le conseil régional, encore ce matin, démentait en nous disant mais on n'a jamais demandé à la SNCF de fermer des gares, des guichets ou des lignes, ou de supprimer les contrôleurs dans les trains, par exemple.
Donc, ils se renvoient la balle d'une certaine manière, c'est ça?
Comment ?
Ils se renvoient la balle, la SNCF et le conseil régional ?
Ouais, ça commence à devenir pénible, ce jeu de ping-pong dans lequel on est au mieux. Mm-hmm. Et là, c'est pas les grévistes, c'est pas les organisations syndicales qui prennent les usagers en otage. Alors, en ce moment, il y a des réunions particulières qu'on appelle les corétaires. On peut trouver la liste et la programmation sur le site du conseil régional, où l'usager a l'opportunité d'interpeller et la direction SNCF et le conseil régional en même temps, puisqu'ils sont assis à une même table en face des usagers de leur association. Mais malheureusement, c'est programmé au moins à 18h. Il n'y a pas trop de publicité qui en est faite, donc il n'y a pas trop de fréquentation dans ces corétaires. Et puis, c'est pas là que se prennent les décisions. Les décisions se prennent au conseil régional, sous la baguette de Xavier Bertrand et Franck Dersin. Alors maintenant, on connaît un peu plus précisément le processus de signature de l'harmonisation des conventions TER du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie, et on connaît un peu plus le calendrier légal du déclenchement de la mise en concurrence, des appels d'offres, et etc.
Et c'est pour bientôt, c'est ça?
Comment?
C'est pour bientôt?
Ah mais c'est le processus a débuté par un vote initial au conseil régional le 25 avril dernier.
D'accord, donc là c'est déjà en marche.
Mais compte tenu des délais et d'un appel d'offres qui doit être européen, on verra pas rouler de train du privé a priori avant fin 2023.
D'accord.
Mais c'est demain à l'échelle du ferroviaire, tant que toutes les décisions se prennent.
Vous parliez que ce matin, vous aviez fait un rassemblement devant le conseil régional. Vous en avez pensé quoi? C'était quoi l'objectif de ce rassemblement? Est-ce que ça a porté ses fruits? Et quels sont, vous, vos autres moyens de pression, si je puis dire? En tout cas, qu'est-ce que vous avez envisagé pour montrer votre mécontentement par rapport à ces décisions?
Ce matin, on a été reçu par Monsieur le Président de la Commission de Transport du Conseil Régional, qui n'est pas Monsieur Dersin, qui est un autre élu, qui nous a dit qu'il ne connaissait pas le niveau des restructurations entrepris par la SNCF en ce moment, et que lui garantissait le niveau de la convention TER, c'est-à-dire le nombre de trains, mais pas les moyens mis en œuvre pour faire rouler le nombre de trains qui était requis. Ce qu'on a du mal à croire, parce que, je me répète, la direction SNCF régionale nous dit le contraire. Bon. Alors c'est un odieux sparti de ping-pong. On a déjà connu ça au niveau des conseillers régionaux et des députés quand on était en grève l'année dernière. Et moi, j'avais assisté à une réunion publique à Arleux où il y avait M. Nius et le député de Douai, Houbron, qui se renvoyaient la balle entre gouvernement et conseil régional sur qui doit payer les travaux de la voie unique Douai-Cambrai. Bon, ça rentre en ligne de compte hein, quand je parlais des petites lignes, entre guillemets petites lignes, mais des lignes d'aménagement du territoire. Et on a prévenu ce matin le conseil régional qu'on allait continuer nos actions. Pour la CET, ça passe en premier par la formation des usagers en premier lieu, mais aussi des élus politiques de toute nature. Les députés, bien sûr, même si la loi est votée, mais à mon sens, seule une nouvelle loi peut défaire une loi qui a déjà été votée. Les conseillers régionaux, parce qu'eux, ils vont devoir assumer leur vote au conseil régional. Les conseillers départementaux, pourquoi pas, mais peut-être aussi et surtout les maires de toutes les communes qui sont desservies par des TER. Et puis, il y a aussi des structures politiques qui prennent de l'importance, ce sont les communautés d'agglomération, qui prennent aussi des prérogatives en matière de transport. Par exemple, on voit la métropole européenne de Lille, qui est quand même la plus riche des communautés de la région, qui se verrait reprendre la gestion de la ligne ferroviaire à Scorchy, qui a été fermée, qui pose plein de problèmes juridiques, mais c'est un exemple que je cite pour dire que le poids des communautés d'agglo dans les décisions politiques qui sont prises en ce moment. Donc on va continuer à informer, et puis quand le jugera utile, suivant le calendrier, on proposera et rassemblement et préavis de grève encore. Voilà. Dans l'unité la plus large possible, comme c'était ce matin, il y avait les 5 organisations syndicales de cheminots représentatifs sur la région qui étaient dans l'action. Avec un très fort taux de grévistes aujourd'hui, notamment chez le personnel qui est chargé de faire rouler les trains, c'est-à-dire les agents de conduite et les contrôleurs.
Donc là, pour la mobilisation, vous parlez des gens qui travaillent. Vous dites que vous voulez informer les politiques, les élus des villes qui sont concernées donc par les gares ou par les lignes de transport. Vous parlez aussi des personnes qui prennent le train. Est-ce que ces personnes-là peuvent, d'une manière ou d'une autre, contribuer à votre mobilisation ?
Je pense que les usagers sont désinformés, ne maîtrisent pas tous les tenants, les aboutissants, et que au bout du compte, c'est le prix de leur abonnement en TER ou le prix du ticket qui les intéresse. Mais que les usagers que je connais, leur association, voient régulièrement des services de la SNCF qui sont fermés, des guichets qui se ferment. Et quand on leur dit qu'il y aura beaucoup moins, voire plus du tout de cheminots en gare, par exemple pour les renseigner ou donner le départ des trains, ça les inquiète. Il y en a encore beaucoup qui sont pas soumis au 100% digital et qui savent même pas se servir d'Internet, par exemple. Alors ça les inquiète et on veut pas que ces gens-là soient oubliés, quoi. Avant de défendre nos métiers, nos emplois de cheminots, on défend le service public ferroviaire et la meilleure réponse aux attentes de toute la population. Bon, alors après, on peut peut-être regretter que sur notre région, les usagers soient pas assez regroupés en associations. Il y a la toute puissante et très libérale FNOT, Fédération nationale des usagers du transport. Après, il y a quelques petites associations, mais pas assez puissantes pour peser dans le sens de l'avenir du service public ferroviaire. Et puis nous en particulier à la CET, on essaie de créer ce qu'on a appelé des comités de vigilance de la réforme du ferroviaire pour alerter, dénoncer, par l'information, tout ce qui se passe et qui serait un effet délétère de la réforme du ferroviaire. Fermeture de guichets, de gares, de lignes, suppression de trains, suppression de TGV, pourquoi pas du fret ferroviaire aussi, parce qu'on l'oublie pas. Donc on s'organise dans l'unité syndicale qui peut se faire et avec tous les usagers ou chargeurs fret qui veulent bien, qui font encore confiance au ferroviaire et à l'entreprise publique SNCF.
D'accord. Vous avez évoqué un peu les conséquences qu'aurait la privatisation pour les usagers. Vous avez dit que concernant les personnes qui travaillent à la SNCF depuis plusieurs années, il y a beaucoup de suppressions de postes. Est-ce que vous pouvez revenir aussi sur les conditions de travail depuis plusieurs années avec cette privatisation, les conditions de travail des gens, des cheminots, des gens qui travaillent à la SNCF?
La privatisation proprement dite en France pour la SNCF, on la connaît pas encore. Mais on a connu depuis 2006 la libéralisation du fret, c'est-à-dire que le fret, le transport de marchandises par fer, a été ouvert à la concurrence, avec d'autres entreprises ferroviaires qui se sont mises sur le marché et à qui des chargeurs, des grosses entreprises aussi, transporteurs de voitures, tout type de marchandises, ont imposé des coûts. Et on organise, nous, la CET, les cheminots dans ces entreprises ferroviaires-là. Et du coup, on compare leurs droits sociaux. D'une, il n'y a toujours pas de convention collective du ferroviaire. Tous les salariés sont endossés à une convention collective qui fixe leurs droits sociaux. Il n'y en a toujours pas en France, c'est toujours en négociation. Mais quand on compare ces droits-là, on voit tout de suite que, par exemple, ça pèse sur le temps de repos journalier ou hebdomadaire. Alors que chacun sait qu'un train, un transport guidé, certes, mais très très technique à faire rouler. Un train, ça s'arrête pas aussi vite qu'un camion ou qu'une voiture. Très sécurisé. Et le métier de cheminot, que ce soit conducteur ou agent d'entretien des infrastructures, des trains, contrôleur, vendeur de billets au guichet, ça ne s'improvise pas. Il s'agit d'une formation continue tout au long de la vie et très poussée. Donc on voit très bien par comparaison le niveau de formation aussi des salariés dans les autres entreprises ferroviaires, quoi. Et c'est pas comparable non plus au système aérien qui a été libéralisé bien avant d'autres grands services publics en France. Donc oui, on est fondé à dire qu'il y aura une dégradation des conditions de vie au travail et des conditions de travail des futurs cheminots, qu'ils soient à statut encore comme aujourd'hui ou peut-être demain à partir du 1er janvier 2020, sans statut, mais avec un nouveau contrat de travail que la direction SNCF essaye de faire le plus attractif possible.
Parce que souvent, quand il y a une grève à la SNCF, ce qui est relayé dans les médias dominants, c'est l'idée que vous parliez de l'expression prise d'otage tout à l'heure, mais c'est souvent cette expression qui est utilisée. Et puis, on nous parle souvent du fameux statut des cheminots qui serait très privilégié. Ceci étant, des témoignages de cheminots parlent aussi de conditions de travail qui se détériorent, comme vous le dites. Avec aussi des conséquences sur la sécurité au niveau de l'entretien, par exemple, des voies. Est-ce que aussi, par exemple, le retard des trains n'est pas une conséquence de cette libéralisation?
Si, bien sûr. Parce que les directions SNCF disent anticiper la mise en concurrence. Donc, poussent les cheminots à abaisser leurs prétentions sociales et à travailler en dehors des clous. Mais moins de cheminots pour faire autant de travail, si ce n'est plus, ou pour faire mieux, forcément, ça conduit à des entorses à la sécurité. Et le drame de Brétigny-sur-Orge, un dernier avec des morts, c'est la démonstration de ce que peut donner une libéralisation débridée, avec une multitude d'entreprises qui géraient les infrastructures ou l'entretien des trains, du matériel roulant, et avec la prime à la rentabilité plutôt qu'à la sécurité. Aujourd'hui, les cheminots ont une culture de service public où la sécurité a une très forte empreinte. C'est dans leur ADN aux cheminots aujourd'hui. Demain, avec un changement de statut qui ne ferait plus la prime à la sécurité où la sécurité prendrait moins de place, on redoute davantage de pannes, d'incidents ou pire.
Très bien, merci Dominique Sens. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour conclure cet entretien sur la situation actuelle des TER, notamment dans la région ?
Eh bien, que les usagers ou voyageurs ou comment ils se qualifient eux-mêmes se regroupent en association pour peser davantage et maîtriser davantage leur avenir, qu'ils participent aux quelques réunions de corps qui subsistent, sinon qu'ils interpellent leurs élus locaux, maires, mais aussi peut-être surtout là dans la période conseillers régionaux, pour leur demander non pas qu'ils les rassurent, mais pour leur dire qu'ils veulent continuer à bénéficier d'un service public ferroviaire efficace, sécurisé et identique en tout point du territoire.